Voilà. Alors, ערב טוב לכולם. Voilà, on se retrouve pour une petite étude juste avant Chag HaPesach. Alors, l'un des tout premiers cours qu'on avait fait ensemble, c'était justement le cours de préparation à Pesach de l'année dernière. On avait beaucoup, beaucoup parlé des quatre enfants, de ce que ça représentait pour nous, des quatre questions, des quatre réponses, des quatre enfants. Donc, on ne va pas se concentrer là-dessus ce soir, même si on va quand même en parler un tout petit peu, mais de manière complètement différente qu'on n'a pas du tout évoqué l'année dernière. Et je pense qu'on évoque très, très, très rarement. Alors, vous allez voir, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. Alors, la fête de Pessah, évidemment, j'ai rien à vous apprendre dessus. Tout le monde connaît très, très bien cette fête. Le seul truc qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est que c'est un peu long. C'est un peu long le soir du Seder. Et là, effectivement, il faut qu'on se pose tout de suite la question, comment ça se fait que le texte de la Haggadah, il est aussi long que la Galoute ? Zéchaël Abdola, la vérité, je ne sais pas qui va être autour de la table chez vous, mais il y a des gens qui ne sont pas des gens qui sortent de la yeshiva, qui n'ont pas forcément les nerfs de tout raconter, de tout lire, d'autant plus que, je ne sais pas, dans les pays respectifs où vous êtes, je ne sais pas dans quelle langue vous allez raconter le soir du Seder et dans quelle langue vous allez dire la Haggadah. Pour ceux qui vont faire en hébreu et qui comprennent déjà l'hébreu, alors au moins on gagne du temps. Mais si tu dois lire en hébreu, traduire en anglais, et puis la grand-mère elle parle que le français, et puis elle veut qu'on parle en yiddish et en judéo-arabe, mais kitsour, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. Donc, la grande question, c'est pourquoi est-ce que cette Haggadah, elle est si longue ? Et ben, je vais tout de suite le dire, elle n'a pas toujours été aussi longue. La Haggadah n'a pas toujours été aussi longue, et elle ne devrait pas être aussi longue, la vérité. Puisque, en fait, la mitzvah, comme on l'a dit d'ailleurs l'année dernière, la mitzvah de Veigadeta Lebincha, de raconter la sortie d'Égypte, eh bien, dans la Halakha, dans le Talmud, on ne nous dit pas clairement qu'est-ce qu'il faut dire. On ne nous le dit pas. La seule chose que le Talmud nous dit, alors c'est dans le traité de Psachim à la page Kuf Tet Zayin, c'est la page du Talmud du Daf Hayomi qu'on a lu hier d'ailleurs, et là-bas on nous dit la chose suivante. On nous dit « Tzarich la'atril bignut ou lesayem beshevach ». C'est tout ce qu'on nous dit. Il faut commencer par dire ce qui n'était pas bien, et terminer en disant ce qui était bien. Ok, génial, on n'a pas d'autres infos. Et donc, comme on n'a pas d'autres infos, eh bien évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire les Juifs? Ils vont se marloctiser, évidemment. Et donc, il y a deux rabbins qui arrivent et qui disent « Ah, tu m'as dit qu'il fallait commencer par ce qui n'est pas bien et finir par ce qui est bien. Bon, alors viens, on n'est pas d'accord sur ce qui n'est pas bien et ce qui est bien. » Et donc, on a effectivement deux rabbins, Rav et Shmuel, qui sont jamais d'accord de toute façon sur rien du tout. Et Rav va nous dire c'est quoi qui était pas bien et c'est quoi qui est donc bien. Eh bien, pour Rav, ce qui était pas bien, c'est que mitechila ovde avodazara yu avotenu. Et donc, qu'est-ce qui est bien? Darshav, kirvano amakom la avodato. En français, qu'au départ, nos ancêtres étaient idolâtres et que maintenant, on est redevenus serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'avis de Rav. Shmuel, il dit, mais pas du tout. Ce qui était pas bien, c'est que Avadim Ayinu le Paro ben Mitzrayim, qu'on était serviteur de Pharaon en Égypte. Et ce qui est bien, eh bien, c'est que Arshav, on n'est plus serviteur de Pharaon, on est libre. Deux ambiances complètement différentes qui ont donné naissance à deux agadotes différentes. Et il faut bien imaginer que pendant près de 500 ans, il y a des familles dans le peuple juif qui ont dit la Haggadah A et d'autres qui ont dit la Haggadah B. C'est pas la même Haggadah. Ok, mais attendez, moi ça m'aide pas. Qui a raison, Rav ou Shmuel? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ilchatiques, mais il faut savoir qu'Alpi Halakha, on a des klalim, on a des cadres de base pour déterminer la halakha, et on sait par exemple que quand il y a une machloket entre Rav et Shmuel, eh bien on nous dit la Gemara dans Maseret Bechorot, Ilcheta kerav beisurei ou keshmuel bediney. C'est-à-dire que la loi, quand il y a une machloket entre Rav et Shmuel, pour ce qui est des questions de issur ve'eter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger ou de faire, et ainsi de suite, alors là, la halakha, elle est comme Rav, mais quand il s'agit d'un litige commercial, d'iné mamonot, alors la halakha, elle est comme Shmuel. Ok, sauf que ça ne nous aide pas, parce que là, on parle ni de d'iné mamonot, ni de issur ve'eter. Il s'agit simplement de savoir c'est quoi la bonne agada. Et donc, eh ben, comme on ne sait pas, eh ben, comme je vous ai dit au début, pendant 500 ans, il y a des gens qui ont fait comme ça, des gens qui ont fait comme ça. Je ne veux même pas imaginer si dans une famille, il y a le gendre du balabait qui venait de l'autre école et que lui, il faisait une agada et l'autre, il faisait l'autre agada. J'imagine la guerre mondiale. C'est comme aujourd'hui, si jamais dans une famille, tu as un Ashkenaz qui a épousé une Marocaine. Oy vey! On pourrait même ici pousser le cri de Chewbacca. Ça s'y prête. Évidemment, imagine un Ashkenaz qui bouffe des patates face à un Tunisien qui a envie de son bol de riz et de son mtsouki et tout ça. Et imagine l'Ashkenaz qui se trimballe avec son réfort alors que la Marocaine, elle veut faire bibilou. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui gagne? Bon, on sait très bien que c'est le Marocain qui gagne, mais c'est pas le débat. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un mariage mixte comme ça, eh bien, en général, quand il y a un mariage mixte comme ça, sachez que c'est en général là-bas que le bord du Seigneur est le plus intéressant. Mais bon, ça c'est un autre débat. Quoi qu'il en soit, les amis, alors comment est-ce qu'on va régler le problème? Parce que les deux agadot, elles existent. Mais nous, le peuple juif, on a décidé, il y a de cela 1200 ans, à l'époque des Savoraïm, donc après le Talmud, on a décidé de réunir les deux agadot. Et dans notre agada à nous, qu'on va tous lire la semaine prochaine, et c'est pour ça qu'elle est longue comme la galoute, eh bien, il y a les deux agadot. On lit deux agadot, en fait. Je ne sais pas si vous avez la Haggadah bien dans la tête, mais la Haggadah bien dans la tête, eh bien, si on se rappelle de petites secondes, nous avons deux Haggadotes qui commencent chacune par une introduction, ensuite question et développement. La première, l'introduction, c'est « Alachmania de Achalua Vatana Dara de Mitzrayim » « Question de Manishtana » et développement, Avadim Aïnou, le paro ben Mitzrayim. Une fois qu'on a terminé toute la première agada, on passe à la deuxième. Introduction, Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shantan Torah l'Amo Israël, Baruch Hu. Ensuite, les quatre questions des quatre enfants. Chacham, Racha, Tam, Sheinod, Alishol. Et ensuite, développement, Mitechila, Ovde, Avodazara, Yoavoten. Donc, nous avons les deux agadot. Parce qu'en fait, venez, on y repense deux petites secondes. Ces deux Haggadot ne sont pas stam des textes différents. C'est un concept complètement différent de qu'est-ce que c'est la fête de Pessah. C'est pas la même fête en fonction de si tu fais la Haggadah A et si tu fais la Haggadah B. Eh oui, réfléchissons deux petites secondes. Si on suit l'avis de Rav, qui nous dit, le problème, c'est qu'on était idolâtre et que maintenant, eh bien, on est serviteur de Dieu. Eh bien, quelle est, on va dire, l'ambiance de Pessah à ce moment-là? Eh bien, c'est une ambiance religieuse. On était serviteur de Apis, Osiris et Anubis et autres rats. Et maintenant, on est serviteur de Yud-Kevavke. On a fait Tchouvé. Nous, il y a fait mal. Donc, ça veut dire que c'est une ambiance, c'est une fête religieuse. Mais si tu me dis que c'est la Haggadah numéro 2, la Haggadah de Shmuel, qui me dit que le problème, c'est qu'on était serviteur de Pharaon et que maintenant, on est libre. Eh bien, c'est une toute autre fête. À ce moment-là, ce n'est plus une fête religieuse, ça redevient une fête nationale. qu'on était esclave et maintenant on est indépendant. Et donc, qu'est-ce qu'on fête après ça? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est une fête religieuse ou est-ce que c'est une fête nationale? Un jour, mon maître, le Rav Cherki, a été mandaté par le grand rabbin d'Israël pour aller parler à un groupe de prêtres, tout un groupe de chrétiens comme ça, d'évangélistes, je sais pas si c'est évangélistes ou pas, je m'en rappelle plus exactement, enfin des chrétiens confirmés, qui avaient plein de questions à lui poser sur le judaïsme. C'était des francophones, donc ils sont venus leur parler, machin. Et l'une des questions que les chrétiens ont posées, c'est, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez nous donner la signification religieuse de Yom HaAtzmaout? Et le Rav Cherki a répondu, il n'y en a aucune. Alors ils étaient très choqués. Il dit, mais attendez, il n'y a aucune signification religieuse à Yom HaAtzmaout, de la même façon qu'il n'y a aucune signification religieuse à Pessah, et aucune signification religieuse à Shabbat, et aucune signification religieuse à aucune des mitzvot. Alors ils étaient encore plus choqués. Et il a dit, ben oui, parce que le judaïsme n'est pas une religion. Donc, puisque le judaïsme n'est pas une religion, mais c'est l'appartenance à une identité nationale, à ce moment-là, eh bien, aucune de nos mitzvot, ni de nos fêtes, n'est religieuse. Et ça, c'est fondamental de le comprendre, les amis. Quand je vous dis que le judaïsme n'est pas une religion, je ne suis pas en train d'essayer de jouer sur les mots. C'est vraiment pas une religion. Vous savez pourquoi ce n'est pas une religion ? Eh bien, parce que une religion, qui vient du terme religius, relié, veut dire que si je fais partie du club, parce que je fais les actions que le club me demande, alors je fais partie du club. Sinon, eh bien, je ne fais pas partie du club. Il y a, par exemple, 5 piliers fondamentaux dans l'islam. Si je rejette les piliers fondamentaux de l'islam, ben, je suis pas musulman. Si je rejette les dogmes qui ont créé le christianisme au concile de Nicée, eh bien, je ne suis pas chrétien. Et pourtant, si je rejette les 613 mitzvot, mais que ma mère est juive, mais je suis juif à part entière. Je ne suis pas un juif de deuxième division, je suis un juif de Ligue des Champions autant que le plus grand des rabbins. Parce que le fait d'appartenir au peuple juif ne dépend pas de ce que tu fais, mais dépend de qui tu es. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on comprend qu'en fait, les deux agadotes, eh bien, sont évidemment intimement reliées. La fête de Pessah, est-ce que c'est une fête nationale ou est-ce que c'est une fête religieuse? Réponse du peuple juif, on a collé les deux agadotes. Ce qui veut dire que c'est une fête nationale religieuse. On dirait en hébreu « dati leumi », mais on se tromperait, parce que ce serait « leumi dati ». Pourquoi ? Eh bien parce qu'on va commencer dans la Haggadah par celle de Shmuel, qui nous dit « avadim ayinu leparo bemitzraim », et seulement après, on parlera de « mitechila ovdei avodah zara ayu avotenu ». Et en vrai, si on y réfléchit bien, c'est tout à fait logique. Pourquoi est-ce que c'est logique ? Eh bien parce que je ne peux pas être serviteur de Dieu si je suis toujours serviteur de Pharaon. Si j'ai déjà un patron, eh bien, je ne peux pas décider que mon patron, c'est Yud-Kevorké. Donc, tant que je suis soumis à Pharaon, je ne peux pas véritablement me soumettre à Dieu. Donc, il faut d'abord me libérer de Pharaon pour pouvoir me soumettre à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, eh bien, c'est la raison pour laquelle, il y a 3 semaines, on avait une autre fête. Et dans cette autre fête, on n'a pas dit le Hallel. À Pourim, on n'a pas dit le Hallel. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le Hallel à Pourim? Eh bien, nous dit la Gemara dans le traité de Megillah, parce que dans le Hallel, on dit « Alléluia, Allelu, Avde, Hachem ». Or, à la fin de la Megillah, on est toujours les serviteurs d'Achashverosh. C'est toujours Achashverosh le patron à la fin de la Megillah. Donc, tu ne peux pas dire que tu es Oved Hachem. Les amis, c'est très fort ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire que tant qu'on est en exil, alors Baruch HaShem, l'exil est terminé depuis le 14 mai, le 5 Iyar 1948, Baruch Hashem, l'exil a pris fin, et donc on peut enfin se rattacher à Kadosh Baruch Hu, tranquilloum. Mais pendant 2000 ans d'exil, eh bien, on ne pouvait pas être véritablement lié à Dieu. Ça ne remet en rien en cause la pratique de nos mitzvot et comment on allait à la synagogue et tout ça. Mais on était quelque part soumis, tant au niveau politique, technique, qu'au niveau spirituel, au bon vouloir des nations et à la force spirituelle des nations. Le Sefer HaZohar nous enseigne que, alors que les nations sont guidées spirituellement par ce qu'on appelle Sar Ha'uma, c'est-à-dire le grand ministre de la nation, c'est-à-dire dans les mondes supérieurs, il y a une entité qui représente l'idéal de cette nation-là, qui fait le lien entre la nation et Dieu. Pour Am Israël, il n'y a pas de Sar Ha'uma. C'est directement la connexion Wi-Fi 5G avec Dieu. Mais quand tu es en exil chez les autres, eh bien, en malasot. Donc, il faut d'abord se libérer de l'emprise de Pharaon pour enfin pouvoir, eh bien, être serviteur de Dieu. C'est pourquoi nous disons d'abord, eh bien, la bracha, la Haggadah numéro 1, c'est-à-dire la Haggadah nationale. Nous étions esclaves de Pharaon et maintenant, ben, nous ne le sommes plus. Ce faisant, eh bien, nous pouvons sortir également de notre idolâtrie. En fait, vous comprenez maintenant que, en fait, être esclave de Pharaon et être idolâtre, c'est auto davar. Et donc, de facto, être indépendant en tant que peuple juif et être serviteur de Dieu, c'est auto davar. Eh oui, parce que si vous me parlez de la Torah, que être serviteur de Dieu, c'est recevoir la Torah et faire les mitzvot, eh bien, alors, on n'aurait pas dû dire cette deuxième Haggadah à Pessah, on aurait dû le dire à Shavuot. Donc, il ne s'agit pas ici de la Torah, il s'agit de la connexion avec Dieu. Et là, j'aimerais vous emmener un tout petit peu plus en profondeur. Je voudrais simplement vous relire les quelques premières lignes des Haggadot, pour que ça nous remette bien dans la tête. Mais c'est un texte qu'on connaît tous très bien, donc je vais aller très vite. On nous dit, Abadim, Aïno, les paroles de Mitzrayim, Vayotzienu, Hashem, Elohenu, Misham, Beyat, Chazaka, Obezroa, Netouya, Veilu, Lotzi, Akadosh, Boroku, et Avotenu, Mitzrayim, Arianu, Vanenu, Vene, Banenu, Meshu, Abadim, Aïno, les paroles de Mitzrayim. Rafilu, Kulanu, Chachamim, Kulanu, Nevonim, Kulanu, Skenim, Kulanu, Yodim, et Torah, Mitzvah, Alenu, les Saper, et Yetziat, Mitzrayim. Le Chol, Amorbe, les Saper, Vitzat, Mitzrayim, Arezé, Meshubach. Ça, c'est la première partie de la Haggadah qu'on connaît, libération de l'esclavage de Pharaon. Mais faites bien attention à la deuxième Haggadah. On nous dit Mitechila ovde avodazara ayu avotenu ve'achshav kirvanu amakom la avodato. Et là, j'aimerais vous poser une question. À qui fait-on référence quand on dit Mitechila ovde avodazara ayu avotenu? C'est qui? C'est avotenu dont on fait référence ici. Est-ce qu'il s'agit de Avotenu en Égypte? Oui, en Égypte, on était idolâtres, mais ce n'est pas d'eux dont on parle. Regardez la suite du texte. Mitechilov d'Avodazara, Yo Avotenu, Varshav, Kirvanu, Amakom, La Avodato, Shene Emar. Voilà ce qu'il est dit dans la Torah. Vayomer Yoshua El Kolaam, Ko Amar Hashem Elohi Israël. בעבר הנער ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור. Ah, donc on est en train de me parler des bases même du peuple juif. On me parle de תרח, le père d'Abraham. Attendez. On est en train de dévoiler quelque chose de fondamental. תרח, אבי אברהם ואבי נחור. ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנער והולך אותו בכל ארץ כנען והרבה את זרעו ואתן לו את יצחק ואתן ליצחק את יעקב ואת עשיו ואתן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים. On nous raconte l'histoire du peuple juif. Mais faites bien attention. Terach, c'est le papa. On le présente comme étant le papa. Puisqu'on nous dit « Terach Avi Avraham ve Avi Nachor. Donc Terach, c'est le papa. Et combien d'enfants sont présentés dans le texte de la Haggadah? Ben, venez, on va compter ensemble. On me dit Avi Avraham ve Avi Nachor. Et après, on me dit que Dieu, il a donné à Avraham et Yitzhak. Et qu'ensuite, il a donné également Yaakov et Esav. 5. Intéressant. Et comment est-ce que ça continue? Ben, ça continue en me disant, enfin, du moins, excusez-moi, pas ça continue, mais qu'est-ce qu'on a dit juste avant de dire la Haggadah de Mitechila Ovdeh Avodah Zara? On m'a dit que Neged Arba Banim Dibra Torah. Echad Chacham, Vechad Racha, Vechad Tam, Vechad Sheino de Alishol. Rabotai, l'année dernière, on a beaucoup parlé de ce qu'il représente, ces quatre enfants, et on les a fait correspondre avec les questions du Manishtana, Bessayder Gamour. Mais moi, deux secondes, aujourd'hui, j'aimerais savoir, mais de qui on parle? Rabotai, je vous le dis, c'est qui le Chacham, le Racha, le Tam, le Sheino de Alishol? C'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Vesav. C'est Chidush Atsum, Atsum, Atsum. Du Rebbe de Ishbitzer, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, qui nous dit dans son livre sur Pessah Bet Yaakov, quelque chose de fondamental, il dit, les quatre enfants de la Haggadah, c'est Avotenu, mais c'est les enfants par rapport à Mitechila, Ovdeh Avodah Zarah et Avotenu. Maintenant, venez, il faut qu'on trouve c'est qui le Chacham, c'est qui le Racha, c'est qui le Tam, c'est qui le Sheino de Alishol. C'est pas Pashut. En fait, c'est pas Pashut de Shela Pshutim. Mise. Mi ze hachacham? A votre avis? Je vais vous dire. Hachacham, c'est Yitzhak Avinu. Ech ani yodea? D'où je sais que Yitzhak Avinu ze hachacham? Eh bien, tout simplement parce que, on va nous dire dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, Amar Rabbi Zeira, Shmei Mina Avira de Eretz Yisrael Machkim. L'ère d'Eretz Israël rend sage. Yitzhak est celui qui n'a jamais quitté la terre d'Israël. Az il est achacham par excellence. Az Yitzhak ou achacham? Tov, mida racha, c'est kal. Ah oui, le racha, c'est Esav. Ah oui, celui-là c'était fastoche. Nous, Bessayde.
C'est Esav.
Ah oui, c'est Esav. C'est Esav. D'accord, elle m'a la saute. Maintenant, dans ma Haggadah, c'est marqué que c'est moi. Que c'est moi qui dois lire le passage du Racha. Mais en vrai, c'est ça. Rashi nous dit que lorsque Rivka était enceinte et qu'elle passait devant les bâtés à Avodah Zarah, alors Esav, il voulait sortir. Esav, c'est Racha. Nous, Saïder, Misa Tam. C'est pas chou, c'est Katouf Batorah. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. C'est Katouf Batorah. C'est même pas la peine d'aller chercher loin. Et là, entre parenthèses, Tam ne veut pas dire tembel. Tam ne veut pas dire débile. Tam, ça veut dire shalem. Shalem, iné, demain matin. Demain matin, a priori, on va terminer Maseret Psachim dans le Daf Hayomi. Et on va dire Tam venishlam Maseret Psachim. Tam, ça veut dire zéou, shalem, entier, terminé. Donc, Yaakov ou Ishtam, Yoshev Oalim. Donc, ça veut dire que si on a le Chacham, c'est Yitzhak, on a le Racha, c'est Esav, on a le Tam, c'est Yaakov, il nous reste Abraham. Ou Sheino Yodé Alishol. Lama? Lama ou le Yodé Alishol? Abraham Avinu, le Yodé Alishol? Nachon. Vous vous rappelez à un moment donné, Akadosh Baruch Hu, il a appelé Abraham en zoom, et il lui a dit, Abraham, kach et bincha, et yechitcha, asher ahavta, ve'ale usham le'ola el echad ha'arim asher omar elecha. Dans la Torah, tu vois pas qu'il a posé quoi que, quelques questions que ce soit. Il a pris Yitzhak, et il est parti à Yerushalayim. Et puis il monte sur la montagne. Sur la montagne, en chemin, j'ai dit, c'est fantastique, j'ai accompagné un groupe là cette semaine, parce que Baruch Hashem, Barshemo, les groupes commencent à reprendre un tout petit peu en Israël, et donc j'ai amené un groupe à Be'er Sheva, Et à Be'er Sheva, il y a un endroit qu'on peut visiter qui est, je dois bien le dire, un tout petit peu kitsch. Je ne sais pas si vous aimez le kitsch, mais un peu kitsch quand même. C'est un endroit qui s'appelle Be'er Avraham, le puits d'Avraham, parce qu'on a retrouvé là-bas un puits de l'époque d'Avraham. Alors, est-ce que c'est le puits, tel qu'il est marqué dans la Torah, que Avraham a creusé de ses propres mains? Il était à Be'er Sheva, il a creusé un puits à Be'er Sheva, et c'est là-bas qu'il a fait le serment avec Avimelech. Et c'est pour ça que ça s'appelle Be'er Sheva, chez Nishbeu Shnehem, et il lui a donné aussi Sheva Kevasot, donc c'est pour ça Be'er Sheva ou Be'er Sheva. Beseder, donc peut-être que c'est là-bas, que c'est pas là-bas, non mais chané, ambiance. Et ils ont fait un petit film là-bas, et dans le petit film, tu vois évidemment toutes les étapes de la vie d'Abraham, et tu le vois à un moment donné, et arriver au Har Moria. Seulement, c'est un film qui a été fait par des gens de Be'er Sheva. Et ils ont été filmés ça dans les paysages de Be'er Sheva. Ils sont montés sur une montagne à côté de Be'er Sheva. Et donc, tu as l'impression qu'ils montent dans le désert, comme ça, sur une montagne. Alors, rien à voir. Rien à voir. Akedat Yitzhak, c'était à Rosh Hashanah. Donc, si Akedat Yitzhak, c'était à Rosh Hashanah, hein, c'est à l'automne, début de l'automne. On est à Jérusalem. C'est pas du tout un paysage désertique. Normalement, c'est la verdure partout. La verdure partout, des arbres en fleurs, ce que tu veux. Hein. C'est septembre, c'est pas... Mais bon, ça adhère, l'homme échané. Donc, il monte. Et à ce moment-là, quand il monte, Yitzhak, il dit à son père, parce que je vous rappelle que Yitzhak, il a 37 ans, et c'est pas un bébé. Et il dit, papa, yesh ha'itzim, yesh ha'esh, v'et ha'machelet, le couteau, le bois, tout est là. V'aya, c'est le hola. Et il est où, le moignon? Alors il dit, Hachem, yirelo, assez le hola, béni. Riel chouchneem, yachdav. Il a très bien compris, hein, ce qui allait lui arriver. Et bien sûr qu'il a compris. Et à ce moment-là, ils arrivent en haut. Abraham fait le misbeach. Et là, il va mettre Yitzhak sur le misbeach. Et à ce moment-là, Yitzhak, il dit, pas. Galoui veyadoua lefanecha. Sheretzoni la asot retzono. Tu sais très bien que j'ai envie de faire la volonté de Dieu. Aval yodea ani shanefesh chatsufa. Je sais que l'âme, elle est chatsufa. Et donc, quand je vais voir le couteau arriver près de moi, je risque d'avoir un réflexe. Je vais bouger. Et tu risques de me faire une entaille qui va faire de moi un korban pasoul. Baal moum. Papa. Okdeni. Yadai veraglai. Attache-moi les pieds et les mains. C'est pour ça qu'on appelle cet événement Akedat Yitzhak. Dieu, il n'a pas demandé d'attacher Yitzhak. C'est Yitzhak qui a demandé lui-même à être attaché. Et à ce moment-là, on connaît l'histoire. Abraham, il prend le couteau, il va, hein, et il y a Dieu qui intervient, le malach. Il y a toute une histoire qu'au début, il y a un malach qui vient, qui dit, Abraham, Abraham, Al-Tishlach Yatrael Anar, Abraham, il dit au malach, tout ce que je vous raconte, c'est pas moi, c'est marqué dans le Midrash Tanfuma. Et le Midrash, il dit qu'Abraham, il a dit au malach, j'ai pas envie de te parler à toi, toi, t'es un subalterne. Moi, je veux parler au patron. Parce que c'est le patron lui-même qui est venu me demander de sacrifier Yitzhak. S'il me demande maintenant de ne pas le sacrifier, qu'il vienne en personne. Je parle pas avec une secrétaire. Alors après, il a envoyé la secrétaire en chef. Mais Abraham, il accepte toujours pas. Il dit, non, moi, je parle que au patron. Et finalement, le patron arrive. Et à ce moment-là, Abraham, il dit à Dieu. Il dit, Dieu, quand tu m'as demandé de prendre mon fils, n'est-ce pas que tu m'avais promis que j'aurais une descendance? Et Dieu, il dit oui. Et n'est-ce pas que tu m'as promis que cette descendance, ça passerait par Yitzhak? Il dit oui. Et tu m'as dit que cette descendance, elle serait finalement aussi grande que les étoiles du ciel? Il dit oui. Il dit, alors dis-moi, quand tu m'as dit de prendre Yitzhak et de le sacrifier, Nachon, que j'avais toutes les raisons du monde de te poser des questions et de te dire, aval lama, aval ech, aval lo echoliot, aval lama. Velo sha'al tikloum. Et je n'ai rien demandé. Kani lo yodea lishol. Ani lo yodea lishol. Pas parce que je suis bête. Pas parce que je suis bête. Shlomo Karlibach, il raconte comme ça que quand il était petit, il a été faire le Seder chez, si je ne me trompe pas, le Rebbe de Belz. Et le fils du Rebbe, qui était juste à côté du Rouf, qui était juste à côté du Rebbe, il était assis comme ça en position d'honneur. Et le Rabbi, il n'arrêtait pas de faire des choses bizarres. Il mettait son Strimel à l'envers. Il faisait plein de choses bizarres. Et à chaque fois qu'il faisait un truc bizarre, il se tournait vers son fils en lui disant « Hein ? Hein ?» Et il attendait qu'une seule chose, c'est que son fils il pose des questions. Il dit « Mais papa, pourquoi tu fais ça ? Et papa, pourquoi tu fais ci ?» Pour l'inviter à « C'est Pessah, il faut poser des questions. » Et à un moment donné, le fils ne posant jamais de questions, le père, le rabbi, se tourne devant son fils et lui dit « Eli, tout ce que j'ai fait ce soir, c'était clair pour toi ?» Le fils, il dit « Papa, la vérité, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce que tu as fait. » Il dit « Mais alors pourquoi tu n'as pas demandé ?» Et là, le fils, le futur Rebbe, il dit « Aval papa, j'ai rien demandé parce que tu m'as toujours appris « She'al Abba, lo she'alim she'elot » Avraham Avinu lo yodea lishol. C'est parce qu'il est lo yodea lishol qu'au final, dans la fin de l'histoire, il dira, Tov, alors maintenant que j'ai pas posé de question, j'ai quelque chose à dire. Alors Dieu, il lui dit, alors qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, bah alors voilà. De la même façon que moi, j'ai pas posé de question, et j'ai fait ta volonté, eh bien, toi, tu feras pareil. Que lorsque les descendants de Yitzhak feront un peu n'importe quoi, et que tu voudras leur faire quelque chose, toi aussi tu te calmeras et tu feras rien. Comme moi j'ai fait ta volonté et je me suis calmé et j'ai pas posé de questions, et ben toi aussi. Nounou, Akadosh Baruch Hu lui dit Binish Batineu Machem. Je te promets. Azrabotay, on a nos quatre enfants. On a Yitzhak Zerachacham, Esav Zeracha, Yaakov Zatam, Avraham Zashino Zerichol. Et il est où le cinquième ? Alors, vous avez le cinquième enfant, on a dit c'est qui ? C'est Nahor. Nahor. Nahor, c'est le frère d'Abraham. Mais Nahor, il a choisi une autre ambiance. Nahor, il est parti à New York. Eh oui, Haran, c'est la New York de l'époque. Eh, tu sais qu'est-ce qu'on parlait à Haran ? On parlait Aramikaït. Et avec l'accent, et c'était des gens super sympas là-bas. Ils avaient vraiment, c'était le pays de la liberté, le pays de où on pouvait réaliser ses rêves. C'était Mamash, je sais pas si vous avez vu ce dessin animé extraordinaire, c'était Fievel au Nouveau Monde. Vous connaissez le film Fievel? La souris. Tu connais pas la souris de Steven Spielberg? C'est un dessin animé de la souris Souriskevitz, qui fuit les pogroms en Russie et qui va s'installer aux États-Unis. Et il y a tout le film, c'est les souris, c'est les juifs, et les chats, c'est les méchants non-juifs qui veulent nous tuer. Yveigvald, Pekitzur, il part s'installer au Nouveau Monde. Haran, c'était ma mâche, la New York de l'époque. Maintenant, quand tu vas t'installer à New York, il y a deux façons de s'installer à New York. Il y a la façon de Avraham, qui lui aussi est parti à Haran, et il y a la façon de Nahor. Avraham, lorsqu'il est à New York, ou Koreh Beshem Hashem. Avraham, il essaye de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, et il cherche, jusqu'à ce que Dieu se dévoile à lui et lui dise Lech Lecha. Nahor, il embrasse la culture new-yorkaise haranienne. Nahor, il a un fils qui s'appelle Betuel. Et Betuel, on l'appelle déjà plus Betuel à Ivri. Vous savez bien que Nahor, c'est un Hébreu. Il vient de la famille des Hébreux, comme Abraham. Mais dans la Torah, son fils Betuel s'appelle déjà Betuel à Arami. Et son petit-fils, il s'appelle Lavan. Lavan à Arami. Et dans notre Agada, eh bien, on va nous raconter que quoi ? Que Arami Oved Avi. Mise Arami Oved Avi. C'est Lavan. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Yohan?
Nachor.
Lavan. Lavan.
Avi Nachor.
Oui, Nachor, c'est la descendance. C'est mon papa, Yaakov, il y a un araméen qui l'a rendu en esclavage. C'était Lavan. Chav, dans ce qu'on est en train de dire, il nous manque notre cinquième enfant. Eh bien, nous dit le Sefer Zohar Chadash, Al-Shir Ashirim, quelque chose d'extraordinaire. Vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire le mot Lavan? C'est pas seulement blanc. Non. D'ailleurs, Lavan, il habitait dans une maison, non? Et tout le monde l'appelait la Beit Lavan.
La White House.
Bah, ouais, c'est ça. Sauf que pour le Zohar, c'est pas la White House. Pour le Zohar, c'est quoi Lavan? Extraordinaire. Zohar, il dit Lavan, c'est Lo Ben.
Lo Ben.
Lavan, tu décomposes en fait. C'est le Lamed, c'est Lo, et après, il te reste Ben. En d'autres termes, Lavan, ou Kvar Lo Echad Abanim, il est déjà plus un des enfants. Keneged Arba Banim Dibra Torah, le cinquième, il est parti. La dimension de l'exil, eh bien, c'est une dimension qui peut te faire oublier tout simplement ta relation à Dieu. Tout simplement. Donc, ça veut dire que la sortie de l'esclavage et le fait de ne plus être idolâtre, autant d'abord. Parce que le fait de sortir d'exil, encore une fois, pour Hachem, nous, ça fait 70 ans, on est sorti. Le fait de sortir d'exil te permet de facto de t'attacher à Dieu. Zéou, Achar Efchar. Ah, il y a fait méode, mais à ce moment-là, il y a une question. Et là, je fais le moment, tu sais, le moment du Geshmak. Voilà, le moment du Limoud, le moment du Limoud. Raconter l'histoire de la sortie d'Égypte le soir de Pessah, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah tassée. Ah, normalement, avant de faire une mitzvah tassée, qu'est-ce qu'il faut faire? Une bracha?
Une bracha?
Ben oui. Eh ben, elle est où? Normalement, avant de faire le Maguid, on devrait faire une brouhée. Où elle est la brouhée? Alors, Rabotai, le Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, il répond à la question. Il dit, t'as raison. Quoi?
Le saper b'itziat
mitzvah. Non, c'est une mitzvah.
C'est ça, c'est une mitzvah.
Donc, tu dois faire, donc avant, tu dois faire une bracha. Avant de faire une mitzvah. Quand tu vas manger la matzah, tu vas faire, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidshanu Tzav Tzivanu Al Achilat Matzah. Et après, tu vas manger. Donc, tu devrais faire, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, le saper b'itziat mitzvah. Et yalla. Je dis le Khatam Sofer, nachon, y'a une bracha. Mais elle n'est pas à sa place. Elle est à la fin du Maguid. À la toute fin du Maguid, juste avant de boire le deuxième verre, tu fais une longue bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Asher Ga'al et Avotenu, Asher Ga'alanu V'Ga'al et Avotenu, V'Kach Mevienu Lemoadim Lagenim Acherim, Baruch ata Hashem, Ga'al Yisrael. Dire Khatam Sofer, elle est là la bracha. Ah oui, d'accord, mais très bien. Mais sauf qu'une bracha, normalement, on le fait avant de faire l'action. Ça n'existe pas qu'on fait une bracha après l'action. Et vous pouvez me donner des exemples techniques, mais qui ne sont pas des bons exemples. Vous pouvez me dire, Netilat Yadayim, on fait d'abord le... Non. Tu fais la bracha pendant que tu as les mains mouillées. Donc, tu es toujours dans l'action. Tu vas me dire...
Mais deux secondes.
Ouais.
On peut faire une taïna, un itoé. Oh. On peut dire, Vare, Lahagid, Betziat Mitzrayim. Ça se répète toutes les années.
Nous.
Alors, si ça se répète toutes les années, et après on fait la bracha, ça veut dire que c'est comme c'est ancré.
Ça la taïna, tu dis, ça c'est une taïna talmudiste. C'est une taïna talmudiste. C'est-à-dire, tu viens et tu sais déjà que c'est pas possible ce que tu dis, mais tu le dis quand même. Pourquoi je dis que c'est pas possible? Parce que tu es en train de me dire, non, en fait, la bracha que j'ai fait à la fin du Maguid cette année, ça compte pour l'année prochaine. Non, il y a un F-sec entre les deux. Donc ça marche pas. Rabotai, pas shoot. La bracha, normalement, on la fait avant de faire l'action. Je dis le Khatam Sofer, sauf un cas. Et ne me dites pas, Netiyat Yadayim, ne me dites pas l'allumage des Nérotes. Parce que d'abord, chez la majorité des Sfaradim, eh ben, on fait d'abord la bracha et ensuite on allume les Nérotes de Shabbat. Et chez les Ashkenazim qui aiment se prendre la tête, alors on fait d'abord la bracha, mais, c'est-à-dire d'abord on allume, ensuite on fait la bracha, mais quand on fait la bracha, on se met les mains devant les yeux pour qu'on ne profite pas de l'action d'avoir allumé avant. Ashkenazim. Bekitso, nous dit le Khatam Sofer, il y a un cas où on fait l'action et ensuite la bracha. Alors c'est un cas que vous n'avez pas fait et que vous ne pourrez pas faire, que moi non plus je ne pourrais pas faire. Nous dit le Khatam Sofer, c'est la guerre chez Tovel le Geruto. Le converti, il doit d'abord aller se tremper, enfin, il finit sa conversion, il se trempe au mikvé, et ensuite, il fait Hachak Yishan, Bitsotav et Sivano, l'Itztaref et Brito Shal Abraham Avin. Ah, pourquoi il ne le fait pas avant? Il dit pas parce qu'avant, il n'est pas encore dans le peuple juif. Donc il ne peut pas dire Hachak Yishan, nous. Il ne fait pas partie du nous. Dit le Rambam, Chayav Adam Bechol Dor Vador, Chayav Adam Lirot Et Atzmo, Keilu Yatsa Ata Mishiabud Mitzrayim. Dans chaque génération, toi et moi, quand est-ce qu'on sort d'Égypte? Pendant le Maguide. Tant qu'on n'est pas sorti d'Égypte, Am Israël, il n'a pas encore pris son identité, puisqu'il est encore esclave de Pharaon. Il ne peut pas dire à Cherki Desha, non, parce qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Donc seulement une fois que tu es sorti d'Égypte par le Maguide, alors tu peux dire la Brouche. Donc ça veut dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces deux Agadot, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est ce qui me permet, le fait de dire Avadi Maïno le Paro et que maintenant on n'est plus Avadi Maïno le Paro, eh bien ça vient mettre le tampon de cachérisation sur Mitechila Ovde Avodazara Yovotenu, Terach. Et grâce à ma sortie d'Égypte, Arshav Kirvano Amakom la Avodato, que déjà Abraham il avait commencé, Yitzhak, d'accord? Même Esav, il fait partie des quatre enfants. Aval, on a un dernier problème. Notre dernier problème, il est très simple. Avraham, Yitzhak, Yaakov, et même Esav, leur connexion avec Dieu, elle est totale. Nous dit Rashi, Sha'avot ki imu kol la Torah kula, afati shelo nitna. Il faisait toute la Torah, bien qu'elle n'ait pas été donnée. Et Esav, il avait rejeté toute la Torah, c'est-à-dire qu'il la connaissait. Donc leur connexion avec Dieu, Elle est pas choute, bibifim. D'où ils ont appris? Ils ont pas appris. C'est dedans. C'est comme on dit en arabe dans les kishkes. C'est dedans. Avalani, losham. Moi, je suis pas au niveau d'Avraham Avinu. Donc, comme moi, je suis pas au niveau d'Avraham Avinu, j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à me rattacher à Akadosh Baruch Hu. Parce que pendant l'exil, c'est tellement dur. Je sais qu'un jour, Bezrat Hashem, il y aura la Géoula. Nous, Baruch Hashem, encore une fois, on est dedans. Mais pendant 2000 ans d'exil, il a fallu quelque chose pour me rattacher. Eh bien, vous savez ce qu'il y a pour me rattacher, les amis? Il y a le truc le plus incompréhensible, le plus illogique de l'El Seder. Il y a plein de choses qu'on fait l'El Seder. Il y a des choses bonnes, des choses pas bonnes, mais en général, elles sont logiques. Le maror, c'est normal que ce soit pas bon. La matzah, c'est normal que ce soit pas shamen. C'est pas le but. Il y a un truc qui est bizarre. Est-ce que vous aussi, à un moment donné, sur le maror, vous mettez une espèce de pâte à tartiner très bonne? Eh oui, je parle évidemment du charoset. Le charoset, nous dit la Gemara, un charoset ou l'homme mitzvah. Avant la falpiche ou l'homme mitzvah, aussi moto keil ou zemitzvah. Et on va le mettre sur les éléments de la mitzvah. Maror, korer. Mais le charoset, j'ai pas compris, deux secondes. Le charoset, il s'en fiche, il fait ce qu'il veut, le charoset. Parce que deux secondes, d'après Manishtana, le charoset, il est censé être liquide. Nakhon? Tu dis, Manishtana echebechol alelot, einanu matbilim, afilu pa'amechat alayla ze, alayla ze. Chete pe'amim. Mais chete pe'amim, que tu trempes quelque chose. La première fois, c'est le carpas dans l'eau salée. Et la deuxième fois, c'est censé être le maror dans le charoset. Chez les Thémanim, agave, chez les Yéménites, il est liquide, le charoset. Mais chez la majorité des Juifs, c'est une pâte. Alors attends, t'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'on en a fait une pâte? Parce que c'est en souvenir de quoi? Qu'est-ce qu'on dit tous les ans à nos enfants? C'est en souvenir de quoi, le charoset? Nous?
Non,
ça c'est après. Le charoset lui-même. Nous? Ah, c'est un moment du charoset.
Attends.
Alors, je vais t'aider. Chazal vous dit dans la Gemara, c'est Zeicher Latit. C'est un souvenir du mortier qu'on mettait dans les pyramides pour construire les trucs. L'Avdout. Avdout. Ah ah, mais attendez deux petites secondes. Alors, si c'est Zeicher Latit, c'est pas censé être bon. Alors, pourquoi est-ce que toutes nos grand-mères, qu'elles soient polonaises ou marocaines, elles ont décidé de le faire Taïm Meod? Eh bien, parce qu'en fait, il y a deux avis dans la Gemara. Soit c'est Zecher Latit, et à ce moment-là, tu fais le Charoset de Temanim, qui est liquide et qui est aussi Charif. Ou alors, tu vas selon l'autre avis. L'autre avis, on est toujours dans le Talmud, on nous dit Rabbi Levi Omer. Parce que Rabbi Yochanan, lui, il a dit c'est Zecher Latit. Aval Rabbi Levi Omer, c'est lo Zecher Latit. Zecher la tapouach. Et c'est tapouach. Chayav sheye tapouchim dans le charoset. Demandez à toutes vos grand-mères, on met de la pomme dans le charoset. C'est pas que ça, il y a d'autres ingrédients. Mais chayav sheye tapouach. Lama, zecher la tapouach. Et c'est tapouach, baron shelcha. Eh bien, et c'est tapouach, je vais te dire. Dit le Midrash, et la Gemara, elle reprend. Elle dit quand on était en Égypte et que c'était très dur et qu'on commençait à perdre espoir dans la Géoula, alors les femmes d'Israël qui étaient tzadikot, elles voulaient redonner de l'espoir à leur mari et elles voulaient les séduire et elles voulaient les amener à continuer et à amener les futures générations. Et donc, elles allaient les voir quand elles apportaient à manger à leur mari. Elles se faisaient toutes belles et tout. D'ailleurs, elles se faisaient toutes belles devant des miroirs qu'après, elles vont amener au Mishzbeach, enfin au Mishkan, pour construire le Mishkan. Alors, très bien, elles étaient toutes belles. Mais il manquait un élément. Dans la séduction et dans le romantisme et dans la notion de Ahdoud, de Ihoud, il n'y a pas que la vue qui joue. J'imagine qu'elle leur chantait aussi des chansons. Kol Beisha Erva, mais quand on est avec son mari, c'est Metsuyan. Mais il manque un élément. Il n'y a pas seulement ni l'ouïe, ni la vue. Il y a quoi? Il dit le Midrash, elle les amenait dans les Sdot Tapuchim shel Mitzrayim, dans les champs de pommiers qu'il y avait en Égypte. Et la bonne odeur des pommiers en fleurs ou en fruits, eh bien, rappeler au Bnei Israël et à Reach shel Zdin Tapuchin Kadishin Shebegan Eden. Et c'est la raison pour laquelle on lit Shir HaShirim à Pesach. Parce qu'à Shir HaShirim, on te dit Marti Ele Batamar Achosa Basan Sinaf Veina Shaddair Kereshkolot Agefen Vereach Aper Katapuchim. Abotai, le charoset, c'est pour éveiller à la Géoula. Le charoset, c'est ce qui me permet de faire le lien avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux ressentaient Reach shel Zdin Tapuchim Kadishin, et donc ils faisaient toute la Torah. Aval la Galout, ça m'empêche de ressentir ça. Asbe Pesach, tu as lu les deux Agadot. Parce que tu as compris l'idée. Maintenant, ça ne suffit pas de le comprendre là. Il faut que tu le ressentes de partout. Et donc, le charoset, on t'a dit, mets de la pomme dedans. Zecher la tapouach, sheneemar, dans Shir HaShirim, Tachat Tapuach Orarticha. Je t'ai éveillé à la relation que tu dois avoir avec Akadosh Baruch Hu grâce à ces pommes. Aziné Rabotai, la fête de Pessah, c'est parce qu'on a retrouvé notre liberté, parce que donc on n'est plus les idolâtres de l'exil, eh bien, on peut s'éveiller à notre relation à Akadosh Baruch Hu. Vezé Shir Ashirim Asher Lishlomo La Melech Shah Shalom Shelo. Et j'ai envie de vous dire, Chag Sameach, même si peut-être qu'on se parlera avant, mais il n'y aura pas de cours la semaine prochaine parce qu'on sera en Bdikat Hametz et autres préparations. Oui, oui. Voilà. Et donc voilà. Donc Chag Sameach.
Et on se parlera pas, et nous on se verra dimanche si Dieu veut. Merci.
Bref.
Oui.
Je voudrais vous introduire mon copain Isaac Taroui, voilà, Réal.
Harry,
c'est, il connaît Benny Zalta. Il connaît Benny. Ça, c'est Isaac, ça, c'est le beau-frère de Benny Zalta.
Hein? Enchanté.
Eh bien, enchanté, Isaac.
De tous Schweisters à Mary.
Baruch Abba.
Eh bien, Baruch Abba.
Exactement. Et mon cousin, est, Raphaël, Armand Apilalo et Marc Apilalo.
Oh, de Montréal. Oui, on les connaît.
Tu connais, moi je connais pas.
Oui, dis-moi.
Est-ce que c'est pour ça?